Shalom, shalom. Shalom, shalom. Alors, je vais attendre quelques minutes que tout le monde puisse se connecter. Désolé d'avoir envoyé le lien aussi tardivement. Il y a un problème d'ordinateur toute la journée. Donc voilà. Alors, je vais encore attendre un petit peu, histoire que tout le monde puisse bien se connecter. Hop là. Yofi. Tov, alors faites-moi un signe. Faites-moi un signe qu'on peut commencer. Et comme ça, on commence. Shalom. Bon, alors c'est bon, alors je me dis qu'on peut y aller. Yala. C'est bon. Bah, très bien. Alors, on est parti. Alors, Rev Tov Lekoulam, et oui, je pensais qu'on allait enfin se retrouver. Mais il va falloir attendre encore une semaine. Quelle difficulté. Mais bon, la santé avant tout. Et oui, la prévention. Il vaut mieux prévenir que guérir. Ouais, vous pouvez balancer tous les dictons que vous connaissez. Tout ira bien. Rev Tov, on est lancé dans notre étude de la Parashat HaShavua. On est après toutes les festivités, l'Akba Omer, et c'est vrai que Yom Yerushalayim et bah, Pétard, peut-être qu'on en parlera la semaine prochaine. En tout cas, aujourd'hui, on va parler donc de ce doublon, de cette fin de livre de Vayikra, à savoir ces deux parachiotes, Behar et Bechukotai. Alors, c'est un gros morceau évidemment, puisque la paracha de Béhar, vous le savez, c'est la paracha qui nous parle de toutes les lois qui sont en rapport avec la terre d'Israël. Mitzvot atlouyot ba'aretz. Et avant qu'on rentre dans le vif du sujet à proprement parler, eh bien, je voudrais poser une question. Est-ce que on peut être authentiquement un juif si, c'est un juif authentique, fidèle à son identité, si on décide que toutes les mitzvot qui ne me plaisent pas, eh bien, je ne les fais pas. Voilà, réponse est évidente, non. Est-ce que je peux être un juif authentique si je dis, Shabbat, je ne suis pas fan, donc je ne fais pas Shabbat. Attends, deux secondes. Déjà parachat Béhar avec le verset 25. Deux secondes. C'est parce que tu lances comme ça, tu dis, mais c'est pas une question, c'est pas clair ce que tu me dis. Ki amur achira omacha achuzato obago alo akarovela vegal et minka achiv. Bah d'accord, mais qu'est-ce que tu veux que j'en fasse de ce verset? Si tu veux, si t'as une question à poser, pose-la, mais là j'ai pas très bien compris. Donc deux secondes. Donc, est-ce qu'on peut être un juif authentique si on rejette une partie de la Torah? La réponse est évidemment non. Est-ce que, par contre, on pourrait venir dire, s'il y a une mitzvah qui est trop dure à gérer, autant eh bien, faire en sorte de ne pas se mettre dans une situation où je dois la faire? Exemple, Shabbat. C'est très dur de faire Shabbat. J'envoie une halakha tous les jours pour faire Shabbat. Et donc, ça veut dire qu'il y a plein de halakhot. Donc, on peut faire plein d'erreurs. Donc, moi, je propose que pour être sûr de ne pas faire d'averot pendant Shabbat, eh bien, on n'a qu'à tout simplement prendre des somnifères vendredi après-midi et on se réveillera samedi soir à Kol Beseder. Comme ça, on n'a fait aucune averot. Nous, alors, on n'aura pas fait les mitzvot positifs de Shabbat, mais bon, au moins, on n'aura pas fait d'averot. Non, je vous dis ça pourquoi? Parce que j'ai connu un homme qui est le fils d'un rabbin que nous connaissons tous très bien à Metz, qui m'a dit, par rapport à la Shemitah, et il m'a dit ça la première fois où j'étais en Israël pendant la Shemitah, donc c'était, je crois, 3 ans après mon alia, Machoukazé, et moi, j'étais complètement émerveillé par la possibilité de faire les mitzvot de la Shemitah. Et je m'étais préparé, tout ça, j'avais appris bien les choses. Et lui, il me dit, écoute, moi, pendant la Shemitah, pas de problème, je n'achète que chez les Arabes. Ah bon ? Pourquoi pas ? Pourquoi tu fais ça ? Il dit, pas comme ça, je ne tombe pas sous le coup de la Shemitah. Entre parenthèses, j'ai connu quelqu'un de mieux. Alors là, c'est le pang-pang du pang-pang. C'était un Américain. Ce qui dit le Roi Chaim, les seigneurs de la terre et les grandes générations rendront des comptes sur ma maison abandonnée et objet des proches. Ah oui, d'accord, évidemment. Oui. Deux secondes. Attends, on n'est qu'à l'introduction. L'athlète. Bikitsour, j'ai connu quelqu'un d'autre qui était, alors lui c'était le pom-pom, un Américain qui tout simplement habitait en Israël, mais dès qu'arrivait la Shemitah, il prenait l'avion et il partait vivre en Amérique pendant un an. Pour être sûr, tu comprends, de ne pas faire d'avérod, c'est très important, les avérod de la Shemitah. Très, très important. Et donc, le mec, il décidait tout simplement de dégarpir et de passer la nuit à Shemitah en route de Saharet. Mais c'est fantastique, cette histoire. C'est fantastique. Les gens fuient la possibilité d'être reliés à une centaine de mitzvot. Parce que c'est de ça qu'on parle, pas que de la Shemitah, mais mitzvot atlouyot ba'aretz, les mitzvot qui dépendent donc de la terre d'Israël, c'est une centaine de mitzvot. Quand on sait, on va faire un peu de maths, quand on sait que si on est en même temps un homme, une femme, un Kohen, un Lévi, un Israël, un riche, un pauvre, un marié et un divorcé, tout ça en même temps, voup, et que j'habite à Paris, je ne peux que gratter les 100 mitzvot, la centaine de mitzvot sur les 613. C'est-à-dire que je ne peux faire qu'un sixième de la Torah quand je suis en Chutz Laaretz. En étant en Israël, je rajoute une centaine de mitzvot. Et l'écrasante majorité des mitzvot dépendent du Beth Amikdash, donc Bezrat Hashem. Mais le Beth Amikdash dépend lui aussi de la terre d'Israël. En d'autres termes, la paracha de Behar nous dit, quand on commence la Torah, dans la fin de cette paracha, et on dit tout de suite, Vaïdaber Hashem el Moshe Behar Sinai, il est mort. Et tout de suite, Rashi dit, Ma'inyan Shemitah Behar Sinai. Pourquoi est-ce qu'on nous parle de la Shemitah? Parce que ça va être ça, toutes les lois qui vont commencer la paracha. Pourquoi on nous parle de la Shemitah au Har Sinai? Qu'on nous en parle à la fin de Devarim, juste avant de rentrer en Israël. Mais pourquoi est-ce qu'on nous en parle ici, au Har Sinai? C'est dans tellement longtemps qu'on va les utiliser. Parce que tu aurais pu penser que vu que la Torah a été dans le désert, a été donnée, sera dans le désert, eh bien, tu aurais pu penser que l'attachement à la terre n'est que a posteriori. Et que donc, quelque part, il y a un idéal de s'attacher à la Torah à un endroit qui n'est pas l'endroit de la Torah. Et tant bien que bah, les gens pourraient se dire, s'ils sont en Chutz Laaretz, que l'attachement à la terre n'est pas essentiel. Rabotai, c'est pas parce qu'on n'a pas pu faire une mitzvah pendant 2000 ans qu'elle n'est pas essentielle. C'est juste qu'on n'a pas pu la faire. On n'a pas pu prier en minyan pendant 2 mois. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prier en minyan. Dès qu'on peut, eh ben on le fait. J'aimerais bien voir, moi, si les minyan mirpassot, ils vont continuer quand on réouvrira officiellement comme il faut les synagogues. J'espère que non. Il faut un makom tfila. Alors, quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Beseder. Mais ne faisons pas de quelque chose qui est un cas de force majeure, un idéal de vie. Am Israël a survécu en exil, Zénachon. Mais depuis quand l'exil devait devenir un idéal? La paracha de Behar marque notre lien avec le troisième pilier pour permettre la rencontre à Dieu, comme on avait vu la semaine dernière. Le pilier 1, d'être l'identité à laquelle Dieu veut s'adresser. Le deuxième pilier, les temps de rencontre avec le Créateur, Kdusha ba'adam et Kdusha ba'zman, et il y a évidemment également la Kdusha ba'makom. Et cette Kedusha Bamakom, mais elle est fondamentale, bien évidemment. Donc, Rabotai, toutes les lois qui apparaissent dans notre paracha, les lois de la Shemitah, eh bien, sont des lois qui nous permettent de nous attacher à la Kedushat Hamakom. Maintenant, revenons deux secondes un petit peu sur l'idéal de cette Shemitah-là. Qu'est-ce que ça veut dire ? Que pendant 6 ans, tu bosses la terre, tu es chez toi, et la 7e année, tu n'es plus chez toi. Ça doit être très dur à vivre, on n'est pas agriculteur. Donc on le vit de manière très, 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 très katane, tu comprends ? Nous, on va faire attention au supermarché, qu'est-ce qu'on achète, vite fait, mais c'est le machou. Quelqu'un qui est agriculteur et qui tout d'un coup, ben, pendant un an, il voit les gens rentrer dans son champ et prendre tout ce qu'ils veulent. Et il ne peut rien dire. C'est terrible. C'est terrible, Nachon. Mais c'est ça qui nous permet de comprendre ce que Avraham Avinu a essayé de nous enseigner. Qui disait « Ger vetoshav anochi imachem ». Il dit Avraham Avinu, est-ce que nous sommes, Baolam Hazeh, des gerim ou des toshavim ? C'est-à-dire, est-ce qu'on est des visiteurs Baolam Hazeh, mais notre place véritable, c'est Baolam Haba ? Ou est-ce qu'on est des résidents permanents Baolam Hazeh, et nous, on sera des visiteurs Baolam Haba ? Avraham a répondu, « Ger vetoshav anochi imachem ». Et Manitou disait, « Mais c'est ger vetoshav ?» Ça veut dire que Dieu, il nous dit, « Imatem gerim baolam hazeh, azatem toshavim imadi. » Et si vous êtes toshavim baolam hazeh, atem gerim imadi. La notion de Shemitah me fait prendre conscience que je n'ai pas un contrôle total sur ce qui se passe sur ma terre en Eretz Israël. Pendant une fois par an, une fois c'est-à-dire tous les 7 ans, je m'en remets complètement à Kadosh Baruch Hu. Tout simplement. Alors, il y a un vrai problème dans cette histoire-là. Parce que quand on regardera finalement toutes les mitzvot à Tlouyot Baharetz, eh bien ce sont des mitzvot particulièrement actives. Troumot, Maasrot, tout ça. Mais il y a une mitzvah d'être passif sur la terre. Pour savoir que tu n'as pas trop d'enracinement dans la terre d'Israël. Il faut être enraciné, mais pas trop. Pourquoi ? Eh bien parce qu'à un moment donné, tu pourrais venir à penser que tu es ici parce que tu es né ici. Tu pourrais penser que tu es ici parce que c'est tes racines ici. C'est faux. Tu es ici parce que Dieu a voulu que tu sois ici. Et c'est pour ça que, une fois tous les 7 ans, on te dit... C'est pour ça que prends conscience que tu n'es pas tellement balabait, po. Rappelle-toi que le balabait, c'est lui. Et si tu es là, c'est parce que lui, il a dit que tu devais être là. Et c'est ça la grande dimension de la Shemitah. Prendre conscience que c'est à col chez l'eau. Dans un monde où la propriété est tellement une notion fondamentale, eh bien, je pense que c'est fondamental également de se rendre compte qu'il y a des temps où je m'en remets à Dieu, le Shabbat, et il y a des temps où je remets à Olam Hazeh entre ses mains, la Shemitah. Maintenant, comment est-ce qu'on fait la Shemitah, Rabotai ? Il faut se réhabituer à faire la Shemitah comme il faut. Qu'est-ce que ça veut dire comme il faut ? Pas en se contentant, certainement pas, alors ça, évidemment pas, en allant acheter de nos cousins de l'autre côté de la ligne verte, certainement pas, et pas non plus en se suffisant du Heter Amechira, qui est Besseder Gamour. Il est totalement Besseder, moi aussi je l'utilise, tout va bien. Mais il faut essayer de se réhabituer à faire la Shemitah comme il faut. Mechira, attention de traduire tes mots en hébreu, pour ceux qui ne comprennent pas encore, genre les gens qui n'ont pas encore fait l'Ulpan. Tu parles du mot Shemitah, la jachère. La jachère. Mais Moshe, si tu vois qu'il y a des mots en particulier, dis-moi. D'accord ? La Shemitah, c'est la jachère. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il ne faut pas faire seulement le Heter Amechira qui nous permet de se servir de ce truc comme ça qu'on fait en vendant la terre à un non-juif pendant un an, machin, comme on fait pour le Hametz. Bien que ça marche et que ce soit cachère, ce que tu veux, il faut se réhabituer à faire la Shemitah telle qu'elle doit être faite. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que soit cette Shemitah-là qui arrive dans quelques années, soit la prochaine, donc d'ici une dizaine d'années, quoi qu'il arrive, on risque fort de devoir faire la Shemitah des Oraita et non plus des Rabbanan. C'est-à-dire que ça redevienne une obligation de la Torah et non plus des rabbins. Qu'est-ce qui détermine si c'est des Oraita ou des Rabbanan ? Eh bien, si Rov Yoshevea Alea. À partir du moment où la majorité du peuple juif est en terre d'Israël, alors la Shemitah devient une obligation de la Torah. Et nous sommes très, 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 très proches d'être la majorité du peuple juif en Israël. Alors, pour de bonnes raisons, l'Aliyah, et aussi malheureusement, beaucoup pour de mauvaises raisons, à savoir l'assimilation en Khoutzlaret. Et c'est ce qui me permet de faire la transition avec la suite. Parce que, comme tu faisais référence tout à l'heure, tu disais, Moshe, dans le verset 25, du chapitre donc 25, on dit la chose suivante. Je vais reprendre le verset. Qui yamur achicha umacha achuzato uva goalo akarov ela vegal et mimkar achiv. Si jamais quelqu'un a vendu son territoire, eh bien c'est à son proche de venir racheter le territoire. Et effectivement, le Rachaim Akadosh va tout simplement faire cette analogie en disant que Dieu avait la terre d'Israël, il l'a vendue au Goïm. Et c'est donc au proche de Dieu de venir faire Geulat Haaretz. C'est qui les proches de Dieu ? Anachnou, c'est nous, le Bnei Israël. Et donc, il faudra effectivement que les gens viennent rendre des comptes parce qu'ils n'ont pas voulu récupérer la terre d'Israël. En cela, un des plus grands tzadikés Ador, de la génération précédente, c'est évidemment le baron de Rothschild. Et bien sûr, grâce à lui, on a pu racheter énormément de territoires en Israël. Et grâce à lui, d'autres philanthropes l'ont fait également. Moshe Montefiori, Touro, Bekitsour. Grâce à ces gens-là, eh bien, on a pu retrouver une grande partie de notre terre. C'est donc l'implantation dans cette terre qui nous permet, une fois tous les 7 ans, de se détacher un petit peu. Arabaït, on ne l'a pas racheté dans notre génération. Arabaït, David l'avait acheté déjà. Donc c'est bon, c'est déjà fait. Maintenant, évidemment, on a conquis le Harabait, évidemment. Et il est temps de prendre conscience de ce que ça veut dire, Harabait Beyaden. Mais ça, on en parlera peut-être plus à l'époque de Yom Yerushalayim. Donc, le fait qu'on se soit implanté en terre d'Israël nous permet de pouvoir s'y détacher pendant 1 an pour mieux la retrouver après. C'est la paracha de Behar qui permet d'ouvrir la paracha de Bechukotai. Puisque la paracha de Béhar, avec son attachement à la terre d'Israël, eh bien, nous permet de comprendre qu'il y a un intérêt à être attaché à ce monde-ci. Ben oui, parce que tant que dans ce monde, ceux qui règnent, ce sont les non-juifs, qui ne nous veulent pas que du bien, pour le peuple juif, s'attacher à ça, à Olamazé, l'omachou, ça ne vaut pas tellement le coup. Et effectivement, pendant 2000 ans, les juifs n'étaient pas tellement attachés à ici. Mais oui, puisque Olam Hazeh était pourri. C'est ce qu'on appelle l'exil. L'exil, c'est Olam Hazeh égale pourri. Pas shoot. Et c'est pour ça que lorsque tu commences par la parasha de Behar, alors tu comprends ce que veut dire le verset qui ouvre la parasha de Bechukotai. Puisque dans la parasha de Bechukotai, eh bien, on vient et on te dit... Si vous faites tout ce que j'ai dit, si on fait tout ce que Dieu il a dit, alors, eh bien les rabbins, depuis 2000 ans, nous ont dit, si on fait tout ce que Dieu il a dit, alors, eh bien alors, tu auras un Olam Haba de folie, tu auras une villa, 3 étages, piscine, dans le Olam Haba. Mais oui, parce que nos sages n'ont cessé de nous vanter les mérites du Olam Haba, nous disant que si on fait tout ce qu'il faut, finalement, là-haut, ça sera génial. À tel point que c'est devenu un must incontournable, par exemple dans la Tfila. Dans la Tfila, on nous parle toutes les 5 minutes de ce qu'on fait, qu'il y a le Olam Haba, et la ville, il monte à Mashiach, il y a le Olam Haba. La Mishnah nous dira qu'en Israël, les Shlem Chelek l'Olam Abba. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, si tu demandes à un rabbin qu'est-ce que j'aurai en récompense du fait que j'ai bien servi Dieu, eh bien, tu auras un super monde à venir. C'est pas ce que Dieu il a décidé de dire. C'est pas ce que la Torah nous dit. La Torah ne nous parle pas du Olam Abba. La Torah nous dit, si tu fais tout ce que je t'ai demandé, je te donnerai un gros chèque, un gros compte en banque. Venatati gishmechem beitam. Vetzaretz. Vetzaretz raliten pirio. C'est-à-dire, je vous donnerai la pluie et vous aurez de très bonnes récoltes. Bah, pour un peuple qui a 90%, 99% agriculteurs à l'époque, bah, que Dieu il donne la pluie et qu'il fasse une bonne récolte, ça veut dire qu'ils aient plein de fric, les gens. Genre, qu'est-ce qu'on te promet si tu fais très bien ce qu'il faut dans la Torah? Eh bien, on te promet Olam Hazeh. Comment est-ce possible qu'il y ait une telle contradiction entre Anachnou, c'est-à-dire les Juifs Bedoré Dorot, et l'enseignement de la Torah? Bien pour, comme je l'ai dit, pour une raison très simple. Lorsqu'on est à la maison, qu'on a vu Parashat Béar en premier, alors, Olam Hazeh, il vaut le coup. En période de Géoula, ce monde-ci, ça vaut le coup. Mais en exil. En exil. Mais non. Mais ce monde-ci, il est pourri. Donc, je me rattache à ce que je peux. La question est de savoir pourquoi la Torah ne parle pas du Olam Abba. Que elle mette l'accent sur le Olam Hazeh, je comprends, je viens d'expliquer. Mais pourquoi elle n'en parle pas? Le Olam Abba, d'après le Parthenora, c'est le Olam après Triat Hametim, non? Qu'en penses-tu? C'est pas shoot. Le Olam Abba, ta question, elle reflète ce que je voulais dire. Pourquoi la Torah n'en parle pas? Nous dit le Rambam dans Moréa Nevuchim, tout simplement parce que personne, y compris Parthenora, ne sait exactement ce que c'est. Et donc, comme on ne sait pas ce que c'est véritablement le Olam Abba, eh bien, la Torah ne va pas parler d'un truc qu'on ne peut pas comprendre. La Torah ne parle pas de flukin flu. Parce que bien que ce soit quelque chose de fondamentalement important au niveau spirituel, le flukin flu, eh bien, dans la mesure où on ne sait pas ce que c'est, la Torah n'en parle pas. Donc, le Rambam dira, la Torah n'en parle pas parce qu'on ne sait pas ce que c'est, on ne peut pas comprendre ce que c'est. Donc, la Torah parlera par contre de ce qui nous permet d'y arriver. Et donc, elle nous parlera beaucoup de la chorma, qui nous permet de nous élever pour arriver au Olam Abba. Il est fait. Très rambamique comme réponse. Rabbi Yehuda Halevi, dans le Sefer HaKuzari, a une autre réponse. Pour lui, ce n'est pas du tout la raison de pourquoi on ne parle pas du Olam Abba dans la Torah. Rabbi Yehuda Halevi dit tout simplement, dans le Mahamar Sheni, Shishi, pourquoi est-ce qu'on ne parle pas du Olam Abba dans la Torah? Parce qu'on s'en fout. Velama, on s'en fout? Eh bien, un, parce qu'on va tous y aller, parce que Kol Yisrael Shem Chelok Olam Abba. Et deux, parce que Zelo Chashuv, Mashé Chashuv, Zéa Olam Azé. Quel est l'argument de Rabbi Yehuda Halevi? Tout simplement, si ce qui était important c'était Olam Abba, Dieu nous aurait mis Olam Abba. Aval Dieu nous a mis Olam Hazeh et nous a demandé de parfaire Olam Hazeh. Donc ce qui est important pour la Torah, c'est notre travail, notre rôle ici. Donc on ne parle pas dans la Torah du Olam Abba. Oui, il y aura des allusions, mais on ne nous en parle pas concrètement. Parce que ce qui est important et ce qu'il faut mettre dans la tête du peuple juif, c'est que ce qui est important, c'est Olam Hazeh. Le problème, c'est que tout ce que je viens de dire n'avait pas d'écho pendant 2000 ans. Tout simplement parce que pendant 2000 ans, eh bien, je vous ai dit, on s'est retrouvé exclu de Sipouré à Olam Hazeh, des histoires de ce qui se jouait ici. Et comme on s'est retrouvé exclu de tout cela, eh bien, je vous ai dit, on a mis un idéal de vie à la recherche du Olam Abba. Et pire que cela, non seulement on a mis comme idéal la recherche pour arriver au monde à venir, mais en plus de ça, on a commencé à idéaliser l'exil. Il y avait un rabbin, un très très grand Talmid Chacham, sans aucun doute, une figure de la Torah et un grand manigue du peuple juif, qui malheureusement s'est complètement planté dans sa lecture du sionisme, qui s'appelait le Rav Elchanan Wasserman. Rav Elchanan Wasserman, il a écrit un livre contre le sionisme qui s'appelle Kovetz Ma'amarim, qui est terriblement erroné. Alors, pas au niveau des arguments de la Torah, il a ses arguments, je pense qu'il a tort, il n'y a pas de problème, mais non, il est erroné au niveau des données historiques qu'il donne sur le sionisme. Et c'est malheureux qu'on l'ait induit en erreur, quoi. Tu vois que le mec, il ne connaissait pas son sujet. Mais enfin bon, quoi qu'il en soit, Reb Chaim Wasserman, il a évidemment interdit à sa communauté de partir en Israël, machin. Il y a une anecdote, j'ai rencontré un homme, Machon Meir, qui raconte que son grand-père était un élève de Reb Chaim Wasserman. Et il voulait partir en Israël. Mais Reb Chaim, il a dit, personne ne part. Et c'est lui qui était capable de donner des certificats pour sa communauté, en tant que chef de communauté. Donc, si quelqu'un voulait partir, il fallait le ishur de Reb Chanan. Il a dit, non, pas du tout. Seulement, le mec, il a dit, je m'en fous. Il a dit à sa mère, je partirai, même sans certificat. Et elle, elle voulait qu'il parte dans de bonnes conditions. Donc, elle est partie dans le bureau de Reb Chanan. Elle a dit, Reb Chanan, je suis d'accord avec vous, mais mon fils, il veut partir, il partira. Donc, je ne partirai pas de ce bureau tant que vous ne me donnez pas un certificat. Et Reb Chanan, il a essayé de lui dire, mais c'est terrible, il va partir en Israël, il va s'assimiler, il va rejeter toute la Torah, et il va être perdu pour le peuple juif. Et oi, 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 oi. Et elle dit, je sais, mais elle va la sauter. Et au bout de 3 jours où elle était plantée là, il lui a signé le certificat, elle a donné à son fils, et il est parti avec un certificat. Le grand-père est arrivé en Israël, il s'est marié, il a fondé une famille. Il a aujourd'hui, si je ne me trompe pas, 23 petits-enfants et quelque chose comme une cinquantaine d'arrière-petits-enfants. Il n'a rien perdu de sa Torah. Au contraire, il est devenu un grand Talmid Chacham et pratiquement tous les membres de sa famille sont des Talmid Chachamim. Des enfants, des petits-enfants, machin, tous dans la Torah. Et c'est le seul survivant de toute sa famille, une famille de 8 frères et sœurs qui ont tous été massacrés dans la Shoah. Comme toute la communauté de Reb Chanan Wasserman et le Rav avec eux. Donc, une très mauvaise lecture de l'histoire. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'il avait une réflexion toranique derrière, par rapport au verset de notre paracha de Bechukotai, qui nous dit que si on ne fait pas ce qu'il faut, eh bien, on sera envoyé en exil. C'est la malédiction ultime de la Torah, que si tu ne fais pas ce qu'il faut, tu ne respectes pas ce que Dieu a dit, tu pars en exil. Et Reb Chanan, il dit de l'exil qui ne nous a fait aucun mal. Oui, au niveau individuel, pauvre Cham, ça a fait des dégâts. Mais au niveau spirituel, l'exil ne nous a fait aucun mal. Nous avons réussi à garder une Torah excellente en exil. Oy vavoy. Le Rav Tzvi Yehuda Kook répond à ce Kovetz Ma'amarim et dit toutes les svarot du monde, toutes les réflexions du monde, ne peuvent pas contredire un verset. Et le verset de notre paracha nous dit « Ve'achla etrem eretz oyvechem » et la terre de vos ennemis va vous dévorer. Mais de quoi tu me parles quand tu me dis que l'exil ne nous a fait aucun mal? D'abord, physiquement, bon, certes, à la décharge de Reb Chanan, il a écrit ça avant la Shoah. Mais bon, même avant la Shoah, je t'en prie, physiquement parlant, vas-y les pogroms. Et moralement parlant, spirituellement parlant, tu veux qu'on parle de ce qu'a fait l'exil? Ribboino shel olam. Mais ce n'est pas la peine de remonter au XXe siècle. Hein. Le Talmud de Babylone ne se cherche pas d'excuses. Le Talmud de Babylone, qui écrit donc à Babylone, va commenter le verset de la Megillat Echa qui dit « Ki bemecheshakim oshivani ki mete olam » car tu m'as installé ici comme un mort-vivant, nous dit le Talmud de Babylone, dans le traité de Sanhedrin, à la page 26 ou 24, je ne m'en rappelle plus, « Zo Talmuda shel Bavel ». C'est qui les morts-vivants? C'est le Talmud Bavli. Le Gaon de Vilna dira, dans le Sifra d'Etzniota, enfin dans son commentaire du Sifra d'Etzniota, il dira je ne comprends rien à la Torah et c'est à cause de Vilna. Disait ça le plus grand Talmid Chacham de notre époque, enfin de son époque. Je suis à Vilna, donc je comprends rien. C'est Ravin. À Galout, Zeklala. Et ça, c'est très dur de s'en défaire. Parce qu'on a tellement réussi à survivre à cette galoute qu'on ne se rend même plus compte que c'est une clala. Qu'on ne se rend même plus compte qu'au niveau spirituel, on est devenu des chrétiens là-bas. Alors oui, il y en a qui ont réussi à s'enfermer au Beit HaMidrash, Shkoyer. Mais parlons du peuple juif qui est devenu dans ses concepts complètement chrétiens. C'est terrible. Voire complètement musulman, ça dépend où il est parti en exil. Quand je vois les différents pèlerinages, vu, bon, Zoom cette année, ça a l'air. Et je ne veux pas ici mettre, porter atteinte à quelque EDA que ce soit. Ce que je vais dire marche pour les Chabadnikim qui vont faire leur pèlerinage trop souvent à New York. Ça vaut pour les chassidim qui vont faire les pèlerinages sur les Kibbutz Tzaddikim en Pologne. Ça vaut pour toutes les personnes qui vont faire le pèlerinage à la Griba. Ça vaut pour tout le monde, ce que je vais dire. Regardez cet attachement à Chutz La'aretz. Zechaval meod. Zechaval meod, ça n'amènera à rien. Je me souviendrai toujours d'une discussion que j'avais eue il y a longtemps avec mon oncle qui me disait que la première fois où il a été en Pologne sur la tombe du Rémo, Rabbi Moshe Isserles, il a été émerveillé par le Réma, par l'endroit, la choule du Réma, la chaise du Réma. Et je lui ai dit, tu sais, l'année dernière, on a été ensemble sur la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai. Ils ont la Hiloula le même jour, l'Akba Omer. C'est aussi la Hiloula du Réma. Je t'ai pas vu comme ça. Il m'a dit, Nahon, t'as raison. Mais en même temps, c'est parce que j'étudie le Réma tous les jours. J'étudie pas Rabbi Shimon tous les jours. Je lui dis, pourquoi pas? Mais au-delà de ça, c'est qu'une histoire de j'étudie ou de proximité dans le temps. On parle ici des Kdoshim de Eretz Israël. On peut même pas comparer la grandeur de l'un par rapport à l'autre, tellement le fossé est énorme. Car la Torah d'ici est une Torah de vie. Il y avait au début du XXe siècle un cas unique dans la littérature juive du début du XXe siècle en Israël. Il y avait beaucoup de gens qui étaient des écrivains, mais personne n'était religieux. Il n'y avait au début du XXe siècle qu'un seul écrivain qui était écrivain, mais également religieux. Il s'appelait Asofer Alexander Zuskind Rabinovitch. Et on l'appelait par ses initiales Asofer Azar. Et il écrit un jour une lettre au Rav Kook, qui était Rav Yafo des Moshavot, une lettre terrible où il dit « Je suis outré par la littérature juive et tout ça. » Il parle de paysages, il parle de choses futiles, il parle d'amour, il parle de romans, et tout ça. C'est n'importe quoi. La littérature juive, c'est pas pour faire des romans. La littérature juive, c'est pour parler que de Kodesh. Tout ce qui est pas du Kodesh, c'est bon pour les goyim, c'est pas pour nous. Il pensait avoir, un chizouk du Rav Kook qui lui répond, je vois par ta lettre à quel point la galoute est encore présente, betor nishmatra. Comment l'exil est encore présent en toi? Comme disait Manitou, c'est beaucoup plus facile de sortir d'exil que de faire sortir l'exil de nous. Il dit, mais ça, c'est une réflexion d'exil, de dire que le juif authentique ne doit s'occuper que de Torah. Le juif authentique, il doit s'occuper de vie, de tous les domaines de la vie. Parce que Dieu n'est pas le rav du Beit HaMidrash du monde, il est le roi du monde. Il est le patron de tout ce qui se passe ici. Et donc, il faut pouvoir dévoiler Akadosh Baruch Hu dans tous les domaines de la vie. Et non pas seulement dans le Beit HaMidrash. C'est ce que nous apprend, par exemple, Boaz. Vous savez, on est dans la fin de... Enfin, la fin, c'est encore un petit peu, mais on s'approche de la fin de Sfirat HaOmer, Chag Shavuot, Chag Shavuot que j'espère qu'on vous retrouvera tous à la synagogue de Shorashim, qui, je l'espère, pourra réouvrir à ce moment-là, bien comme il faut, et qu'on aura un Shavuot Besimcha dans notre communauté. Et à Shavuot, on a l'habitude de lire le livre de Ruth, Megillat Ruth. Et là-bas, on nous parle de Boaz. Boaz, Gdol Ador. Boaz, c'est le Gdol Ador, il n'y a pas de problème. De sa génération, il n'y a pas de débat, c'est lui le patron. Et Boaz, eh bien, il dit la chose suivante. Enfin, pas lui. On nous dit sur Boaz la chose suivante. L'époque, c'est l'époque de la moisson. Et donc, comment ça marche à l'époque? Bah, tu vas tout simplement, tu vas récolter ton champ, mais tu ne réussis pas tout en une journée. Tu as des grands champs. Donc, qu'est-ce que tu fais pendant la nuit? Bah, tu as fait plein de meules de foin, enfin de je sais pas, comment ça marche, les épis de blé, quoi, que tu as mis en tas. Et tu dors sur place pour pas qu'il y ait des voleurs qui viennent te prendre ta récolte. Et donc, nous dit le texte de la Torah, dans le chapitre 3 de Ruth. Vayochal Boaz Vayesht. Vayitav Libo. Vayeler Lishon al Tse Arema. Et Boaz a mangé et Boaz a bu et il a kiffé et il a été dormir à côté de l'argent, à côté de la pile de foin. Voilà ce qu'on a à nous apprendre sur Gdol Ador. Il a mangé, il a bu, il a kiffé, il a fait dodo. Nos sages dans le Talmud ont un problème avec ce verset. Et donc, ils vont dire « Vayoch al Boaz vayesh », c'est-à-dire qu'il a mangé, il a bu, mais attention, il a mangé les chiourim, pas trop, et pour ça, pour faire Birkat Amazon, faire une mitzvah. « Vayitav libo bedivre toire ». Comment il a kiffé? Il a fait un Dvar Torah. « Vayitav libo bedivre Torah ». Oh, « Vayelech lishon al tse arema », mais il a fait dodo, mais pas trop, hein, parce qu'il fallait être en forme pour Tikkun Chatzot et tout ça. Genre, on m'a fait passer Boaz pour un religieux. Le Rav Kook, dans Shmona Kvatzim, il répond et il dit, le problème, c'est que comprendre comme ça la Gemara, hein, ça veut dire que les sages du Talmud ont rajouté des choses qui n'étaient pas marquées dans le verset. Dans le verset, il y a juste marqué « Vayochal Boaz, vayesht, vayitav libo ». Dit le Rav Kook, il faut comprendre le Talmud de la manière suivante. « Vayochal Boaz, vayesht, vayitav libo bedivre Torah ». Boaz a mangé, il a bu, il a kiffé par des divrei Torah. Aval pas qu'il a dit des divrei Torah. Chez a divrei Torah, emayu achila veashtia atzmam, nous dit le Rav Kook. Que c'est quoi le Dvar Torah de Boaz? C'est le repas de Boaz. Boaz y mange, c'est un Dvar Torah. Boaz y boit, c'est un Dvar Torah. Pashut kacha. C'est-à-dire, il faut comprendre que le top du top du Gadol Beretz Israël, quand il vit, c'est Torah. Pas besoin de nous dire des mots de Torah. La vie, c'est la Torah. Alors ça, c'est vrai dans tous les cas, quand tu es quelqu'un qui est à ce niveau-là. Qu'il suffit de voir tes alichot olam, c'est Torah. C'est exactement de cela qu'on parle. J'ai raconté cette histoire des centaines de fois peut-être, parce qu'elle est tellement, pour moi c'est tellement une histoire de vie quoi. Et il me manque parce que je ne l'ai pas vu depuis le confinement. Mais un des maîtres qui m'a forgé, un des tout premiers maîtres que j'ai eu, qui sans aucun doute pour moi, et je le dis tout le temps, est l'une des figures les plus représentant de ce que c'est la Kedusha. C'est comme ça que je le ressens, cet homme. Je parle du Rav Yaakov Naon. Et le Rav Naon, qui habite pas loin de chez nous, hein, qui habite dans la Shkouna. Et le Rav Naon, je me rappellerai toujours, on était donc première année en Israël, j'étais un petit jeune, je ne connaissais rien à la Torah, mais alors rien. Deux mois auparavant, j'étais encore en train de transgresser Shabbat, et ce que tu veux. Puis là, j'arrive à la yeshiva, et une fois par semaine, alors, il venait à la yeshiva nous enseigner, mais une fois par semaine, on allait étudier dans sa yeshiva, dans la yeshiva Tamekoubalim de la vieille ville. Et c'était pour nous un moment incroyablement puissant de se retrouver dans cet endroit-là et d'étudier avec lui. Et je me souviens que chaque semaine, un des élèves préparait le thé au rav. Et donc, une semaine, j'ai décidé que c'était moi qui allais préparer le thé. Donc, j'ai été dans la petite cuisine. Jusque-là, pas de problème. J'ai trouvé une tasse propre. Pas de problème. Et là, j'ai trouvé une boîte. Je l'ai ouverte. J'ai vu le sucre. Mais je savais que le rav, il voulait pas de sucre. J'ai vu une boîte bizarre, en métal. Dedans, il y avait des trucs qui ressemblaient à des herbes. Et à côté, il y avait une boule de métal. Et là, je vous avoue que je n'ai pas compris. Parce que moi, j'ai grandi en France, dans un monde de supermarchés. Moi, le thé, je ne sais même pas que ça pousse quelque part. Moi, le thé, c'est un sachet qui est prêt. Le thé, ça pousse en sachet. Ce n'est pas compliqué. C'est du Lipton, c'est à la limite Wissowski, j'ai intégré vite fait, mais c'est tout. Moi, je ne savais pas qu'il fallait prendre les feuilles de thé séchées, les mettre dans la boule de métal et que c'était ça que tu mettais dans l'eau. Parce que l'eau chaude, je l'ai trouvée, pas de problème, je l'ai mis dans la tasse. Et puis, je me suis dit que j'ai senti les trucs là, ce truc bizarre, ça avait l'air de l'odeur du thé. Donc, j'ai pris deux cuillères, je les ai mis dedans. Je me suis dit peut-être que c'est du thé comme du Ness. Ça va fondre. Ça a pris la couleur du thé, l'odeur du thé, mais toutes les herbes, elles étaient dedans. Et je me rappelle en donnant la tasse au rave, tout le monde me regarde en disant « Qu'est-ce que t'as fait ? Mais qu'est-ce que t'as fait ?» Et le rave va boire tout le thé sans dire un mot, alors que j'imagine qu'il a souffert à chaque gorgée parce qu'il voulait pas me faire honte. Parce que pour lui, boire un thé, c'est devenu un Dvar Torah pour nous enseigner qu'est-ce que c'était Midata Anava, qu'est-ce que c'était Midata Lokas, et comment ne pas faire honte à son prochain. Tout ça dans les chlouks de thé qu'il a pris. Eh bien, mes amis, c'est de cela qu'on parle. La Torah de Eretz Israël, c'est une Torah de vie. Une Torah où chaque instant est tourné vers la vie. C'est ça la Torah d'Eretz Israël. Mais la question est de savoir alors quand est-ce qu'on y revient. Puisque la parashat de Chukatay nous parle de l'exil. On en sort de l'exil ou on n'en sort pas de l'exil? Eh bien, à la fin de la parashat, on va en sortir. Ah oui, oui, non, je te rassure, on va en sortir. Mais le problème, c'est qu'on va en sortir avec un verset bizarre. Qu'est-ce que ça veut dire avec un verset bizarre? Je vous prends le verset et nous dit la Torah la chose suivante. Attends deux secondes. Iné, voilà. Nous dit la Torah la chose suivante. Où est-ce que je suis? Je me suis perdu. Nous alors, où est-ce que c'est? Pourquoi est-ce que je ne retrouve pas mon verset? Parlez entre vous, Rabotaï. Deux secondes, voilà, c'est ça, tu vas faire le malin. Et après, tu trouves plus tes versets. Deux secondes, ça vient. Ah, voilà, excusez-moi. Et donc, finalement, à la fin de l'histoire de l'exil qui nous est présentée dans le chapitre 26, eh bien, la Torah nous dit la chose suivante. Nous dit, finalement, « O'az yikana levavam ha'arel ». C'est-à-dire qu'on nous dit que finalement, « Veshavu, veirtsu et avonam ». C'est-à-dire qu'on nous dit, finalement, si jamais, eh bien, vous revenez, alors, « Geoula ». Ça, c'est quand vous revenez à Zikana Levavan et Arel, donc lorsque leur cœur reviendra, alors je les libérerai. Mais sauf qu'il y a marqué Oaz, il n'y a pas marqué Az, il y a marqué Oaz, ou bien quand. C'est-à-dire, ou bien ils reviennent, ou alors quand ils reviennent. La question, en fait, c'est comme ça. à la fin de l'exil et à la sortie de l'exil. C'est une évidence. Mais la question, c'est est-ce que cette sortie d'exil dépend du fait qu'on fasse teshuva ou pas ? Eh bien, en fait, tout est réuni dans ces oaz. Et la réponse, c'est une marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Rabbi Eliezer dit qu'il faut faire teshuva pour avoir la geoula. Rabbi Yoshua dit que non. Et la teshuva est que non. Celui qui a raison, c'est Rabbi Yoshua. Puisque Akadosh Baruch Hu ne nous emmène pas la geoula parce qu'on le mérite, c'est très bien si on le mérite, mais il nous emmène la geoula parce qu'il en a marre que son nom soit bafoué aux yeux des nations. Comment son nom est-il bafoué aux yeux des nations ? Ben, comme dit le livre de Hezekiel, que lorsque nous sommes en exil, les goyim disent « Mashem ele, umnartso yatsao » Oui, oui, Rosie, bien sûr. Bekitsour, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la plus grande chilou l'Hachem, c'est lorsque Am Israël est en dehors d'Eret Israël. C'est le plus grand chilou l'Hachem qui soit. Et là, je vais le dire. Oui, je vais le dire. Et oui, je vais me mettre plein de gens à dos. Mais avant de le dire, je vais dire que je suis pour la Torah. Je suis pour la pratique des mitzvot. Torah is beautiful, Torah is good. Et quand je dis je suis pour la Torah, je suis pour toute la Torah. Mais pour la grandeur du nom divin, il est mieux que le peuple juif soit à la maison, même s'il ne pratique pas la Torah, plutôt qu'il soit dispersé en Chutz La'aretz, même s'il pratique la Torah. Ouais. Oui, il vaut mieux que Am Israël soit à la maison. Il vaut mieux qu'il soit à la maison et qu'il fasse la Torah, c'est évident. Mais il vaut mieux qu'il soit ici plutôt que d'être là-bas. Parce que faire la Torah, c'est très très bien. C'est magnifique de faire la Torah. Mais lorsqu'on fait la Torah ou qu'on ne fait pas la Torah là-bas, nous sommes un Chilul Hashem aux yeux des goyim. Parce qu'ils disent que si nous sommes celui que Dieu a choisi comme peuple, eh bien alors, pourquoi on est persécuté ? Pourquoi on est relégué à l'état de rien du tout ? Ça montre que Dieu aussi, il n'est pas très fort alors à ce moment-là. Alors que lorsqu'on est rentré à la maison, eh bien ça amène d'abord une fierté pour nous et un respect pour les autres. Ce qui nous permet donc, à ce moment-là, de revenir à la Torah et d'être non seulement respecté en tant que nation, mais en plus d'être une nation qui peut éclairer toutes les nations du monde. Voilà comment est-ce qu'on termine le livre de Vayikra. Eh bien, les amis, je n'ai plus qu'à vous souhaiter un bon Shabbat Shalom et surtout que Bezrat Hashem, nous comptons la semaine prochaine, même heure, mais pas même endroit. C'est-à-dire que nous espérons vraiment, et on fera un point évidemment mardi prochain, mais a priori, mercredi prochain, Bezrat Hashem, eh bien, nous reprenons nos cours, pas seulement en live, mais en chair et en os. C'est-à-dire que Bezrat Hashem, la semaine prochaine, les cours reprendront chez nos amis les Burstins, sur la terrasse, on verra où ailleurs. Et voilà. Qu'est-ce qui se passe Victory, Mechila, c'est un avis personnel ou un halakha ? Quoi, sur le fait qu'on va faire les cours chez les Burstins ou sur le fait que vaut mieux être ici que là-bas? Est-ce que c'est une question corona ou une question du chiour? Parce que je peux répondre dans les deux cas, mais dites-moi quelle est votre question. Oui. Au moins, quand on refera les cours en chair et en os. Oui, le deuxième. Oui, le deuxième quoi ? Vous êtes dur avec moi. Hein ? Oui, le deuxième, le corona, donc. Bon, est-ce que c'est mon avis personnel que il vaut mieux être en live, en chair et en os, pour étudier la Torah ? Oui, c'est évident que c'est mon avis personnel et c'est aussi la halakha. Ah ! Oui, bon, je vous taquine, hein, j'avais compris. Est-ce qu'il vaut mieux être en Israël ou est-ce qu'il vaut mieux vivre en France ? Est-ce que c'est un avis personnel ou une halakha ? De toute façon, toute halakha est d'abord et avant tout l'avis personnel du Rav qui a donné la halakha. Donc ça, c'est la première chose. Deuxièmement, ça ne peut pas être une halakha générale pour la simple raison que la halakha n'est pas générale. C'est-à-dire que, oui, au niveau général, il faut vivre en Israël. Tu sais pourquoi ? Parce que c'est une mitzvah de vivre en Israël. Donc, ce n'est même pas un débat à ce niveau-là. Au niveau, si tu parles de manière générale, est-ce qu'un juif, il vaut mieux qu'il vive en Israël ou en Khoutzla Aretz ? Avotai, vivre en Israël, c'est une mitzvah. Point. Donc, est-ce qu'un juif, il doit faire les mitzvot ? Oui. C'est comme si tu me disais, est-ce que vaut mieux qu'un juif, il fasse Shabbat le Shabbat ou qu'il le fasse le mercredi ? Non, il faut faire le Shabbat. Pourquoi ? Parce que c'est comme ça la mitzvah. Donc, c'est une mitzvah d'habiter en Israël. Point. Maintenant, pourquoi je dis que ce n'est pas une halakha générale ? Parce que maintenant, il va falloir demander au cas par cas par rapport à la personne qui vit en France ou ailleurs. Est-ce que pour lui, à ce moment-là de sa vie, dans ses conditions à lui, vaut mieux qu'il revienne vivre en Israël ou pas ? Sans connaître la situation, je serais tenté de dire que oui, mais on ne sait jamais. Peut-être que pour des raisons médicales, pour des raisons de Parnassa, peut-être pour plein de raisons, il vaut mieux que pour le moment, il reste en France. J'en sais rien. C'est pour ça qu'au niveau halakhique, la halakha, c'est toujours du cas par cas. Et chaque personne devra demander à son rav qui le connaît et qui connaît sa situation, eh bien, la question en question. Mais pour ce qui est du cas général de savoir est-ce qu'il vaut mieux être en France ou est-ce qu'il vaut mieux être en Israël, Rabotai, Dieu il nous a donné la Torah. Et dans la Torah, ben, il y a des mitzvot. Et parmi ces mitzvot, il y a « Vishavtem v'orashtem et haaretz vishavtem ba v'natati lachem et eretz kenaan liot lachem l'Elohim » Point. Ce qui amènera le Talmud dans le traité de Ketubot à la page 110 de dire que tout celui qui habite en dehors d'Israël ressemble à celui qui n'a pas de Dieu. Parce que Dieu a marqué dans la Torah, je vous ai donné la terre d'Eretz Israël pour être votre Dieu. Donc si on n'est pas en Israël, il n'est pas notre Dieu. De ne pas faire, mais c'est pas une halakha de ne pas faire la Torah. Personne, aucun rabbin ne va dire, viens en Israël, ne fais pas la halakha. D'ailleurs, venir en Israël, c'est faire la halakha. Donc c'est pas ça la question. Oui, je comprends que c'est dur d'écrire avec l'iPhone, mais j'ai bien compris ce que vous voulez dire. Est-ce que c'est une mitzvah d'être, c'est mieux de faire la Torah, de ne pas faire la Torah en Israël que de faire la Torah en France? Mais c'est une question absurde. Vivre en France, c'est assour. Maintenant, des fois, t'es pas tour. Des fois, t'es pas tour. Parce que t'as pas le choix. Manger des fruits de mer, c'est assour. Point. Maintenant, des fois, t'as pas le choix. Bon, c'est pas le cas des mecs qui vont au restaurant, qui mangent des fruits de mer. Les mecs qui mangent ces fruits de mer, c'est une avéra. Mais c'est l'ambassadeur, là, sans avéra. C'est pas shoot. C'est l'ambassadeur, là, sans avéra, que ce soit en France ou en Israël. Mais vivre en France, volontairement, c'est avéra. Point. Donc, si la question se pose, est-ce qu'il vaut mieux revenir ici en tant que juif ou rester là-bas, il vaut mieux revenir ici. Et je vais te dire mieux que ça. C'est évident que c'est ici qu'il aura beaucoup plus de chances d'arrêter de manger des fruits de mer plutôt que là-bas. Et ne viens pas me dire, non mais j'ai plein d'exemples de gens à Tel Aviv qui font n'importe quoi, machin, alors que nous, tu comprends, dans notre petit shtetl, dans le 19e arrondissement de Paris, on est beaucoup plus protégés, machin, nan, nan. Hey, tu l'as vu mon œil ? Tu l'as vu mon œil ? En France, il y a près de 500 000 juifs, un peu moins. Est-ce que tu es au courant que près de 350 000 juifs sur les 500 000, ah non, j'exagère, excuse-moi, près de 250 000 juifs, voire 300 000, d'après les chiffres estimés qu'on a du consistoire, ne sont même pas reliés à une communauté pour se faire enterrer quand ils vont mourir en tant que juifs dans un cimetière juif. C'est-à-dire l'écrasante majorité des juifs en France perd son identité à une vitesse fulgurante. Alors qu'aujourd'hui en Israël, même le mec qui n'est pas religieux, il est complètement relié à son identité juive. Et donc il y a énormément plus de chances qu'il revienne ici que là-bas. Oui, exactement, il mange des fruits de mer, mais il est prêt à mourir pour le pays. Nachon, nachon. Et c'est une mitzvah qui dépasse de loin beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres. Donc il est évident qu'il aura plus de chances d'arrêter de manger des fruits de mer ici que là-bas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas qui font tchouva là-bas. Baruch HaShem, qu'il y a des gens qui font tchouva là-bas aussi. Mais il est évident que la place d'un juif, elle est ici. Ce n'est même pas un débat. Et ce qui est fou, c'est qu'on se pose la question. Dieu, il a dit, les juifs, ils doivent être ici. Et nous, on vient et on en fait un débat. Ben non, ce n'est pas un débat. Ashe Bezrat HaShem, on est enfin la prise de conscience qu'on revient sur la terre de la vie bah, pour dévoiler la Kedusha qu'il y a dans tous les domaines de la vie. Et on se retrouve la semaine prochaine chez nos amis les Burstins, dans la résidence Quadra à Mekor Chaim, dans la rue Mekor Chaim, 37 ou 39, je ne sais plus exactement c'est quel bâtiment, le numéro du bâtiment. Et voilà, et comme ça, on pourra enfin se revoir parce que vous m'avez grandement manqué. Shabbat shalom à tout le monde.